Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur l'évangile que nous entendrons dimanche prochain, troisième dimanche du temps du carême. Nous sommes au chapitre 13 de l'évangile selon saint Luc, les versets 1 à 9. Il y a un saut dans le temps qui a été effectué depuis l'évangile de dimanche dernier, celui de la transfiguration, où Jésus a continué à enseigner ce que signifie être son disciple, quel est l'engagement qui est nécessaire à cela, que signifie de prendre sa croix et le suivre. À travers des paraboles, il a enseigné que l'homme se présente devant Dieu comme un intendant à qui son maître a confié ses biens pour prendre soin des gens de sa maison. Il y a donc eu le développement d'une réflexion autour de la responsabilité de l'homme et de l'usage qu'il fait du temps. Lisons notre évangile. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » L'épisode commence par un fait divers que l'on rapporte à Jésus, des gens qui ont été massacrés par Pilate et leur sang s'est mêlé à celui des sacrifices qu'ils offraient. Face à cette mort violente et imprévue, les gens s'interrogent, est-ce que ce serait un châtiment de Dieu à cause de leurs péchés ? Dieu les aurait-il fait périr de la sorte pour les punir d'un péché particulièrement grave ? Jésus nie cela. Ils n'étaient pas de plus grands pécheurs que les autres. Jésus va même en rajouter en prenant un deuxième fait divers, 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. C'est encore un épisode d'une mort imprévue, mais là, sans que la malice des hommes soit impliquée. Ce n'était pas un sabotage, cela semble le fruit du hasard, donc on pourrait se dire d'autant plus, n'est-ce pas une intervention de Dieu qui a provoqué cela ? On ne peut pas le mettre sur le compte de la malice des hommes. Mais là encore, Jésus leur dit, ils n'étaient pas plus pécheurs, ils n'étaient pas plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem. Cette parole de Jésus renverse alors l'effet d'étonnement provoqué par ces épisodes. À la base, pour les auditeurs, l'étonnement est provoqué par la mort subite et violente de ces hommes. Les circonstances de leur mort étonnent, choquent. Mais Jésus leur dit, ce qui devrait vous étonner n'est pas la circonstance de leur mort, mais le fait que vous-même, vous ne soyez pas frappés du même sort. Étonnez-vous de ce que vous n'ayez pas encore péri, de façon violente et inattendue. Pourquoi ? Parce que vous êtes pécheurs, parce que vous avez commis des péchés comme eux. C'est ce qui signifie la phrase « si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même ». Il y a en fait dans la parole de Jésus un double avertissement qui est donné à ses interlocuteurs. Le premier avertissement est un rappel « souviens-toi que tu es mortel, souviens-toi que tu vas mourir ». Cela peut sembler évident, et pourtant, on peut vivre sans jamais se préoccuper de sa propre mort, sans jamais avoir à l'esprit sa propre mort. C'est un grave manque de sagesse que d'oublier que nous sommes mortels ou de mépriser ce fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans l'angoisse permanente, mais qu'il faut intégrer cet élément dans la façon dont nous vivons notre vie. Le deuxième avertissement, quant à lui, vient souligner le fait que le fruit du péché, c'est la mort. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Le péché porte en lui une condamnation à mort. Le péché porte en lui, on pourrait dire même, un empoisonnement. Ce double avertissement permet à l'homme d'être conscient et responsable. Si je n'ai pas conscience d'être mortel, il n'y a aucune raison que je fasse attention. Si je n'ai pas conscience que le fruit du péché est la mort, alors il n'y a aucun motif pour que je me convertisse. Ou plus exactement, je peux dire qu'il n'y a aucune urgence pour que je me convertisse. La sagesse et le courage ne sont pas une ignorance du danger, mais bien une conscience du danger et du coup la maîtrise qui peut s'en suivre. Par la parabole qu'il introduit ensuite, Jésus manifeste que son objectif n'est pas de provoquer la peur en nous, mais une conscience et une responsabilisation pour qu'advienne une conversion, un retournement du cœur. Ce figuier, voilà 3 ans qu'il épuise le sol sans donner aucun fruit alors qu'on était en position d'en attendre légitimement. Il a mérité d'être coupé, mais voilà qu'il lui est accordé un sursis. 7 années encore, on va en prendre soin, peut-être donnera-t-il du fruit. On prend alors conscience que le temps qui nous est accordé est un temps en vue de la conversion. C'est un temps afin que le fruit puisse enfin être porté. En définitive, l'évangile de ce jour est un texte de sagesse, mais aussi d'espérance. Il est propice à la réflexion. L'espérance naît de ce que Dieu, le maître de la vigne, attend du fruit de nous. Il attend du fruit de ce figuier au milieu de sa vigne. Il a donc conscience que ce figuier peut en produire, et il donne les moyens de grâce par le vigneron, par le Christ, que ce fruit advienne. C'est un encouragement très ferme, très net pour notre vie. Oui, tu peux porter du fruit. Oui, ta vie, malgré sa fragilité, malgré sa pauvreté, malgré son histoire, peut porter du fruit parce que le Seigneur, une fois encore, bêche, apporte son engrais, apporte son soin pour que cela soit possible. Je peux donc reprendre confiance en ma capacité de porter du fruit. Je ne suis pas une ronce, je suis un figuier. Cela étant dit, une vigilance s'impose quant à l'usage que je fais de mon temps. La mort surviendra, nous sommes mortels. Quel usage fais-je donc du temps qui m'est imparti? Autrefois, on parlait de la bonne mort. La bonne mort, c'était pas de s'endormir dans son lit et de ne pas se réveiller. La bonne mort, c'était justement de voir venir sa fin, de pouvoir s'y préparer, de pouvoir se réconcilier avec Dieu et avec ses frères, et assister par les sacrements de l'Église, de pouvoir passer paisiblement de ce monde au royaume de Dieu. D'une certaine manière, le souci de la bonne mort allait provoquer le souci d'une bonne vie. Ma vie intègre paisiblement la conscience de ce passage. Ainsi, je ne serai pas surpris, je ne serai pas pris au dépourvu, quoi qu'il arrive, je ne connaîtrai pas ce sort des Galiléens ou des 18 personnes écrasées par la chute de la tour de Siloé, qui n'étaient pas prêts, qui n'avaient pas pu se préparer. Comprenons bien, pour interpréter ce texte dans toute sa portée, que nous lisons ce texte pas seulement à la manière dont les apôtres l'ont entendu, mais nous le lisons dans la lumière de la résurrection. Et donc le rapport du chrétien à la mort n'est pas exactement le rapport que pouvaient avoir les gens à l'époque du Christ, alors que la résurrection n'avait pas encore eu lieu. Avant la résurrection du Christ, l'évocation de la mort était certes, on va dire, un acte de sagesse pour apprendre aux gens à ne pas être ignorant de la réalité mortelle de notre condition humaine, mais la mort pouvait apparaître comme l'obstacle infranchissable et d'une certaine manière aussi ultimement l'échec de la vie. Avec la mort et la résurrection du Christ, la situation évolue. Nous ne mourrons pas seulement. Nous sommes appelés à mourir en Christ pour ressusciter en Christ. Et le baptême nous a d'une certaine manière déjà associés à sa mort et à sa résurrection. Ce passage ne nous est plus complètement étranger. Mystérieusement, nous l'avons déjà traversé et nous l'avons déjà traversé victorieusement avec le Christ. Se convertir, c'est apprendre à vivre déjà comme le Christ, pour au moment de notre mort, être avec lui, pour entrer avec lui dans le royaume, et continuer à vivre de sa même charité, de sa propre charité, de la charité de l'Esprit Saint pour la vie éternelle. La mort n'est jamais anodine, mais pour le chrétien, elle est désormais illuminée par la présence du Christ, elle devient en lui un passage vers la vie en plénitude. Je vous souhaite de bons échanges.